Chapitre 96. Ce que contenait le Natzer du général indien. La cérémonie faite, comme il est dit naïvement dans la légende de Malbrook, chacun s'en fut couché, les uns avec leurs femmes et les autres tout seuls. Nous ne suivrons ni les uns ni les autres, mais profitant toujours de nos droits et privilèges d'auteur dramatique, nous allons pénétrer hardiment dans les coulisses et tenter de voir à travers les carreaux dépolis de sa loge ce qui se passe chez la signora Rosenha Engel. D'abord à la porte attendait une foule de princes, d'électeurs, de margraves, de banquiers, pareils à des courtisans faisant antichambre au petit coucher d'une reine. Il fallait le temps à la signora Rosenha de quitter son costume d'almée, d'ôter son rouge et son blanc, et de passer sa robe de chambre. Seulement, ce soir-là, l'attente se prolongeait bien au-delà du temps ordinaire. Il en résultait que cette foule aristocratique, entassée à la porte d'un couloir étroit, étouffait et commençait à murmurer, plus poliment en apparence, c'est vrai, mais presque aussi impatiemment au fond que murmure la foule populaire. On entendit un pas qui approchait de la porte et la porte s'entr'ouvrit à la satisfaction générale. Mais par cette porte entr'ouverte passa le museau futé d'une camériste française, laquelle, avec cette facilité d'élocution qui caractérise l'honorable classe des femmes de chambre françaises en général, et des femmes de chambre d'actrices en particulier, « Messieurs, la signora Rosenha est désespérée de vous faire attendre, mais elle est un peu souffrante et elle vous demande encore si vous tenez absolument à rester 10 minutes de repos. » Ce fut à cette nouvelle un véritable hurrah. 10 minutes d'attente dans cet endroit privé d'air extérieur était bien certainement une ou deux asphyxies pour les poumons délicats des diplomates et autant de congestion cérébrale pour les cerveaux épais des banquiers. On murmura fort. « Ah, dit la Marton, je crois que l'on murmure là-bas. Messieurs, c'est à prendre ou à laisser. Chacun est libre de rester, mais encore bien plus libre de partir. »« Charmante, charmante, » dirent plusieurs voix, affectant l'accent français. « Nous accordons les 10 minutes, mais pas une seconde de plus, » dit un gros banquier, habitué à ne pas donner de délai à ses débiteurs. C'est bien, dit mademoiselle Mirza en refermant la porte. La signora est prévenue, et si elle a besoin 1 minute, de 2 minutes, de 10 minutes de plus, elle ne vous le demandera pas, elle les prendra. Il faut bien qu'on respire, que diable. Et le pêne de la serrure graissa dans la gâche. Or, ce n'était ni le désir de repos, ni le besoin de respiration qui retardait l'entrée de la cour de Rosenha, la réception officielle de ses adorateurs. La jeune fille était habillée depuis longtemps, mais en regardant le bracelet de diamants qui entourait le sac de musc de l'Indien, en entrouvant le sac lui-même, elle avait aperçu une lettre, et la valeur du sac précieux, jointe à l'originalité de l'envoi, avait donné à la danseuse une vive curiosité de savoir ce que contenait la lettre. Alors elle avait déplié le billet, l'avait lu, était restée un moment pensive, l'avait relu et avait paru s'enfoncer dans une seconde rêverie plus profonde encore que la première. Enfin, après avoir jeté un dernier regard sur la signature, elle replia la lettre, la remit dans son enveloppe musquée et attacha le natzer indien à sa ceinture. Puis, comme si elle voulait jouir à son aise d'une douce émotion dont l'eût distraite la présence de tous ses importuns, elle fit dire à ses adorateurs, par l'organe de mademoiselle Mirza, qu'elle demandait encore 10 minutes pour se reposer et respirer. Ces 10 minutes écoulées, elle appela sa camériste et lui ordonna d'ouvrir la porte. Elle sourit et leva les épaules de pitié en entendant rugir ses flatteurs à l'approche de la femme de chambre, comme à l'approche du belluaire rugissaient les animaux du cirque. Ils se précipitèrent à travers la porte de la loge entr'ouverte avec l'impétuosité du flot à travers une écluse. Après quoi, la procession commença. Chacun défila devant la danseuse, nonchalamment couchée sur son canapé, et lui baisa la main. Nous tiendrons nos lecteurs et surtout nos lectrices quitte des fades compliments qui vinrent échouer aux pieds de la belle Rosenha. À la forme près, le fond de chacun était le même. Vous êtes belles comme des amours et vous avez dansé comme un ange. La danseuse les écoutait à peu près comme les divinités auxquelles nous nous adressons écoutent nos prières. Comme elle, laissant planer son esprit dans les hautes régions, elle entendait le bourdonnement de toutes ces voix que, vaguement, sans les comprendre et sans y répondre, absolument comme la rose entend le bourdonnement des abeilles. Il nous paraît cependant bon de dire, en conteur consciencieux, que sous les douces fleurs de rhétorique de ses discours qu'on lui adressait et qu'elle n'écoutait pas, se cachait le serpent de la jalousie, lequel, de temps en temps, dressait, du milieu des fleurs effeuillées aux pieds de la danseuse, sa tête plate et sifflante. Chose étrange, ce n'était pas ce mystérieux Natsur échappé aux yeux de tous des mains de l'Indien. Ce n'était pas ce bracelet de diamants enroulé au poignet de la jeune fille et qui semblait s'épuiser en jets de flammes. Ce n'était pas ce sac parfumé sous sa broderie d'or pendue à la ceinture de la belle Rosenaa comme une escarcelle. Ce n'était pas toute cette richesse visible qui mordait au cœur les adorateurs de la danseuse. Non, c'était ce bouquet de violettes que l'on cherchait inutilement parmi les autres bouquets étalés sur le canapé, sur les fauteuils et les consoles. Ce bouquet de violettes dont le parfum suave combattait l'odeur pénétrante du musc et qui était tombé d'une main invisible. C'était le regard que Rose des Anges, si nous permettons de donner en français l'équivalent du nom allemand de la danseuse, c'était le regard que Rose des Anges avait jeté vers la loge d'où il était parti. C'était la façon preste, mignonne et joyeuse dont elle l'avait ramassé pour l'élever ensuite à ses lèvres. C'était ces détails, fut-ils en apparence, qui cependant avaient été vus, observés et commentés de mille façons différentes, et de l'ensemble desquels il résultait que cette réputation de vertu qui était le plus beau fleuron de la couronne de la jeune fille venait de recevoir dans cette soirée un premier mais vigoureux échec. Aussi, après avoir demandé la permission d'admirer le bracelet de diamants enroulé autour du bras de la danseuse, après s'être récrié sur la richesse de cette peau de rat musqué qui, de son vivant, était loin de se douter qu'une fois morte, elle serait brodée de perles et d'or, le marquis de Himmel, un des plus assidus sigisbées de la belle Rosenaa, se hasarda-t-il à lui demander si elle n'avait aucune idée du mystérieux personnage qui lui avait jeté le bouquet de violettes. Alors tout bas, presque à part, « Marquis, avait dit Rosenaa, c'est mon confesseur. »« Comment, votre confesseur ? Pas l'ancien, le nouveau. »« Je ne comprends pas. » C'est pourtant bien simple, et plus simple même pour vous que pour aucun autre. C'est vous qui avez divulgué ma résolution de me retirer dans un couvent. Oh, mon engagement étant fini ce soir, mon noviciat commençant demain, vous ne pouvez pas trouver mauvais que mon nouveau directeur ait été curieux de faire le plus tôt possible connaissance avec sa novice. Le vieux comte d'Aspern, qui n'avait pas entendu la réponse de Rosenaa, lui adressa la même question, et celle-ci lui dit à demi-voix « Ah, comte, je puis vous avouer la vérité à vous, puisque c'est vous qui répandez le bruit que je vais me marier. Et, soit dit en passant, je ne sais pourquoi vous me desservez à ce point, quand j'ai plus de faiblesse pour vous que pour aucun de ces messieurs ici présents. Eh bien, comte, c'est le bouquet de mon fiancé. » La rose blanche est le symbole de ma vertu et la violette celui de ma discrétion. Respirez les violettes, comte, et tâchez d'en garder le parfum. Enfin, un attaché d'ambassade russe, le jeune comte de Gerstorf, ayant demandé à son tour le secret du bouquet, Rosenaa l'avait regardé en face en lui disant tout haut « Ah ça, comte, est-ce bien sérieusement que vous me faites cette question ?»« Mais sans doute, avait répondu le comte. » C'est me dire que vous voulez mettre ces messieurs dans la confidence de nos petits arrangements particuliers. Je ne vous comprends pas, avait repris le dandy moscovite. Messieurs, voici le fait. Vous savez qu'on m'a proposé un engagement pour le théâtre impérial de Saint-Pétersbourg. Les uns répondirent que oui, les autres répondirent que non. Eh bien, c'est monsieur le comte de Gerstorff qui a été chargé de me transmettre cette proposition et qui, pour me déterminer à accepter l'engagement, au reste des plus avantageux, y a ajouté l'offre de son cœur, en me disant, comme je n'étais pas encore décidé à accepter ni l'un ni l'autre, « Si vous acceptez, belle Rosenha Engel, le plus modeste des bouquets qui vous seront jetés ce soir, vous ferez de moi le plus heureux des hommes, car ce sera la preuve que vous venez à Pétersbourg et que vous me permettez de vous y accompagner. » Or, décidé à profiter, sinon des deux offres au moins d'une, je laisse à la modestie de monsieur le comte à deviner laquelle, j'ai ramassé le bouquet de violettes, le tenant pour le plus modeste des bouquets qui m'avaient été jetés. « Ainsi vous partez pour Pétersbourg !» s'écrièrent plusieurs voix. « Si je ne pars pas pour l'Inde, où me demande Rujet Singh pour son théâtre royal de Lahore, comme vous pouvez le voir, messieurs, par les arts magnifiques que m'a envoyé ce soir son ambassadeur. « De sorte que votre engagement, » demanda le marquis de Himmel. « Est là, » dit la danseuse, « dans cette peau de rat musqué. Je ne vous le montre point, parce qu'il est en hindou, mais demain je le ferai traduire, et s'il est tel que j'ai lieu de l'espérer, je donne rendez-vous à ceux de mes adorateurs qui ne craindraient pas de se déplacer pour moi sur les bords du Sindh ou du Pendjab. Or, continua la belle Rosenha en se levant, comme il y a 100 lieues d'ici à Saint-Pétersbourg, 4000 d'ici à Lahore, et que, de quelque côté que je tourne mon choix, je n'ai pas de temps à perdre, et messieurs, que je prenne congé de vous, en vous faisant cette promesse bien sincère de ne jamais oublier les bontés dont vous m'avez comblé. » Et la danseuse, avec un sourire charmant, avec une révérence d'une irréprochable exactitude chorégraphique, salua l'illustre et galante assemblée qui, voulant ne la quitter qu'au dernier instant, l'accompagna jusque sur la place du théâtre, c'est-à-dire jusqu'au marchepied de sa voiture, où elle sauta, légère comme une mésange qui rentre dans sa cage. Au moment où le cocher rendait les rênes aux chevaux impatients, tous les chapeaux, en signe d'adieu, s'envolèrent d'un coup, et en même temps, comme si une trombe eût passé par là. Laissons la voiture de la jeune fille s'enfoncer dans Augustinergasse, Krugerstrasse, et s'arrêter dans la Seilerstadt, où était situé son hôtel.